Réponse, vous connaissez les règles. Veuillez vous présenter ainsi que l'organe de presse que vous représentez et je vous demanderai tout de suite de bien vouloir fermer vos téléphones ou les mettre sur silencieux, s'il vous plaît. Nous allons lever la main, nous allons commencer sur la gauche et on va vous passer un micro. Oui, un micro ici sur la gauche, s'il vous plaît. Merci.
Merci pour la parole, Monsieur Tshisekedi, pour le journal Multimédia News. Ma préoccupation s'adresse d'abord au porte-parole militaire. Monsieur le porte-parole militaire, si aujourd'hui les FARDC lançaient l'offensive pour la récupération de la ville de Goma, qu'est-ce qu'on peut attendre encore de la MONUSCO? Est-ce que Goma sera récupérée ou non? Je voudrais savoir encore quelles sont les relations présentement entre les forces de la MONUSCO sur place à Goma et le M23. Est-ce qu'ils se regardent en chien et chat ou comment ils traitent leurs relations et qui contrôle l'aéroport de Goma? Merci.
Merci beaucoup. Mon commandant.
Merci. Merci, M. Tshisekedi, pour ces questions. Concernant le soutien que nous accordons au FARDC, il n'a pas changé. Si vous l'avez remarqué, trois types de soutien sous un régime de conditionnalité. On aide à la préparation par la formation. Je vous ai donné l'exemple au Sud Kivu des 239 officiers qui ont été formés durant la période écoulée. On aide à la planification des opérations, mais on aide aussi sur le plan logistique. La décision de reprendre ou d'attaquer Goma est une décision souveraine de l'État congolais et de ses FARDC. La MONUSCO continue et continuera d'appuyer les FARDC dans ses entreprises. La deuxième partie, la relation avec le M23 dans Goma. Nous n'avons aucune relation avec le M23. En tout cas, au plan des militaires, je vous assure que nous n'avons aucune relation. Nous travaillons dans Goma sans avoir de relation avec le M23. L'aéroport de Goma, effectivement, il est bel et bien occupé par les forces de la MONUSCO. L'aéroport de Goma, comme vous le savez, comme tous les aéroports, il y a plusieurs parties. L'aérogare, les pistes, la tour de contrôle. Toutes ces parties sont effectivement occupées par la MONUSCO qui renforce cette occupation par des mesures défensives passives, par la mise en place de lignes de barbelés, mais aussi par des patrouilles dynamiques avec nos véhicules blindés. Voilà pour l'occupation de l'aéroport de Goma.
Deuxième question, s'il vous plaît. D'abord, la dame derrière vous, de Africa News.
Christiane Kampo pour le journal Africa News. J'ai deux questions. La première question s'adresse au porte-parole, M. Manoj Mounoubaï. Le M23, donc les éléments du M23 ont déclaré qu'ils peuvent quitter Goma le vendredi. Dans quelle mesure la MONUSCO ou précisément les Nations Unies peuvent-elles prêter foi à ces messages? La deuxième question pour le commandant Diène. Après le retrait, si retrait il y aura, quelles sont les dispositions qui sont prises ou qui seront prises pour que ce mouvement, donc le M23, soit mis effectivement hors état de nuire?
Concernant votre première question, est-ce que nous avons foi, nous la MONUSCO, en la déclaration du M23? Vous savez que la décision du M23 de se retirer de Goma a été prise suite à la réunion qui a eu lieu à Kampala. C'est une réunion à laquelle la MONUSCO n'était pas partie, mais il y a eu des accords qui ont été signés là-bas. On nous a fait part du contenu de ces accords. Nous observons pour voir si chacun va tenir parole, parce que je pense que chacun a des obligations dans ces accords-là. Donc, tout comme vous, nous attendons de voir comment ces accords seront respectés par les parties qui l'ont signé. Bon, commandant.
Oui, concernant la deuxième question de madame, actuellement, des dispositions ont été prises pour soutenir et vérifier les accords conclus suite à la médiation des chefs d'État. Dans ce sens, nous continuons à patrouiller et à vérifier les lignes de contact des positions actuelles des deux parties. Et nous avons pris les dispositions en cas de retrait du M23 pour assurer une zone de séparation conformément à notre mandat. Concernant une éventuelle éradication du M23, cette décision n'est pas celle de la MONUSCO. Donc, je ne saurais y répondre.
Devant.
Eric Mbombo, Falanga, pour le compte du journal Veritas. J'ai des préoccupations. La première s'adresse à M. Madnod Djimounoubaï. J'aimerais savoir, parce que l'autre fois, la CIRGL s'est mis d'accord pour décider contre les gens de M23, les rebelles de M23, afin, ils ont donné, évidemment, un ultimatum de 48 heures. Alors qu'au moment où nous parlons maintenant, cet ultimatum est déjà expiré. Quelle analyse faites-vous par rapport à ces sujets? Et la seconde s'adresse au général Diel Patrick. Au général Diel, je crois.
Patrick, donc, je suis commandant.
Colonel, commandant, excusez-moi.
Posez la question.
C'est aussi une bénédiction. Mon commandant, j'aimerais savoir, parce que le nouveau général de notre FRDC, chef état-major des forces terrestres, général Olinga, s'est décidé de dire qu'il veut maintenant contre-attaquer les éléments du M23, parce qu'avant il y avait des traîtres, mais apparemment maintenant il n'y a plus de traîtres, parce que c'est lui qui est maintenant au commandement. Et quel sera l'apport de la MONUSCO pour notre armée, le FRDC? Merci.
Oui, le délai de 48 heures pour le M23 pour quitter Goma, c'est le contenu, je crois, de l'accord qui a été signé. Mais je pense, comme dans toute discussion et dans tout accord, l'important, c'est que l'accord soit respecté. Vous savez, quand on est sur le terrain, les plénipotentiaires ou les signataires des accords se trouvent ailleurs, ils signent des papiers, il y a une ligne de communication, il faut que les instructions arrivent aux troupes. Et vous savez que les militaires, pour qu'ils respectent des consignes, il y a quand même une ligne de hiérarchie à respecter. Peut-être que les conditions de communication sont difficiles, il faut le reconnaître. Mais je pense que vous et moi, nous avons pris connaissance de la déclaration de M23 de respecter la lettre et le contenu de ces accords, c'est-à-dire de se retirer de Goma. Qu'ils n'arrivent pas à le faire dans les 48 heures, mais le font dans les 50 heures ou dans les 72 heures. Je crois que l'important, c'est que l'essence de cet accord soit respectée. Mon commandant.
Donc, concernant la deuxième question, effectivement, le général Olinga s'est rendu au sud Kivu, dans la période du 24-25-26, et a effectivement eu des séances de travail avec le commandant des forces du sud Kivu. Et dans ce cadre, des préparations conjointes ont été faites avec une analyse de la situation. Donc, la MONUSCO continue à soutenir, dans le cadre fixé par son mandat, sous le régime de conditionnalité, les FRDC, dans la préparation, l'entraînement, la formation, dans la planification opérationnelle, mais aussi dans le domaine logistique. Voilà ce que nous faisons présentement, conjointement avec les FRDC, en plus des opérations conjointes que nous menons, Dienga ou Salama, et d'autres opérations qui continuent à se faire normalement.
Devant.
Merci.
On va faire le tour. On fait le tour.
Allez-y. Merci, monsieur le porte-parole. Moi, j'ai une préoccupation.
Présentez-vous.
Moi, c'est Flavien Msens pour le compte des planètes. Très bien. Monsieur le porte-parole militaire, hier, dans le territoire de Kibumba, il y avait un accrochage entre les éléments de FDLR et des armées rwandaises. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à cette situation? Quelle était votre attitude? Deuxième préoccupation, situation humanitaire. À l'instant, vous avez combien de sites de déplacés, bien sûr en nord, et combien de sites vous avez déjà visités? Merci.
Monsieur Fabienne, votre question se rapportant à des événements qui se seraient passés dans le territoire de Kibumba, ce n'est pas les informations que nous avons à notre disposition. Si vous avez bien suivi, la partie rwandaise a fait un communiqué où il dirait que dans la zone de Zarima-Ruwengeri au Rwanda, il y aurait eu une attaque supposée des FDLR. Et il serait parti du territoire congolais. Au moment où je vous parle, nous n'avons aucun élément nous permettant d'infirmer ou de confirmer ces incidents. Parce que nous n'avons pas de troupes déployées dans ce secteur qui nous permettent de nous donner des informations fiables à la suite d'investigations indépendantes que nous aurions faites. Donc je ne peux pas faire de commentaires sur cet incident.
Oui. L'humanitaire?
Oui, il y a actuellement 12 sites autour de Goma et autour dans ses alentours immédiats. Parmi ces 12 sites, il y a deux camps, les camps de Mugunga 3 et les camps de Mugunga 1 qui regorgent l'essentiel des personnes déplacées avec plus ou moins 90 000 personnes. Alors, il y a d'autres, maintenant des sites qui ne sont pas coordonnés, c'est le site Lac Vert, Don Bosco, Notre-Dame d'Afrique, il y a 4 ou 5 écoles primaires, et puis les sites de l'église Mont-Rocher. Ce sont les différents sites, et dans tous ces sites, des évaluations ont été conduites, et l'assistance est en train d'être distribuée, dont l'assistance en nourriture et en biens non alimentaires.
Merci. Prochaine question.
Merci. Mon nom est Benoît Kambere Lusumba. Je voudrais m'adresser au général Gramont. Ce n'est pas toujours qu'on a un général parmi nous.
S'il vous plaît, posez seulement votre question là.
J'y vais. Oui. J'ai deux préoccupations. Mon général, on a vu des manifestations au courant de la semaine dernière, notamment contre la MONUSCO, et contre les institutions, il y a eu plusieurs pancartes, il y a eu des... On a parlé du chapitre 7, mon général. On vous demande de passer du chapitre 6 au chapitre 7, mon général. Qu'est-ce que le chapitre 6 et qu'est-ce que le chapitre 7, mon général, pour l'entendement de beaucoup de Congolais? Deuxième préoccupation, mon général, on a encore parlé de l'embargo des armes que... le pays, la République démocratique du Congo, serait l'objet et qui partirait du Conseil de sécurité. Vous êtes ressortissant d'un pays du Conseil de sécurité. Vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Et enfin, le bilan que je demande au commandant Dieng. Quel est le bilan des morts à la prise de Goma? Combien de militaires FRDC sont morts? Combien de rebelles sont morts? Et surtout, combien d'éléments de la MONUSCO sont morts? Parce que, semble-t-il, il y en a eu, j'ai dit.
Mon général, vous voulez prendre la question?
Je vais y répondre.
Ok.
Monsieur Benoît.
D'accord.
Avancez votre chaise, s'il vous plaît.
Oui, mon général.
Oui, donc merci d'abord pour votre question. Alors je voudrais parler du chapitre 6, chapitre 7. Vous savez qu'ici, la force de l'ONU... Alors je voudrais quand même rappeler ce qu'a dit M. Missière. Nous sommes l'ONU, les casques bleus, c'est des forces de maintien de la paix. Nous ne sommes pas des armées de guerre. CF, ce qu'a dit, ceci étant dit. Le Conseil de sécurité nous a mis sous chapitre 7, ce qui nous permet de faire des actions violentes pour remplir notre mandat de protection des populations. Alors, je vous incite à vous référer à la conférence de presse de M. Missière, mais je voudrais quand même rappeler des choses qui doivent être sues, des choses qui doivent être dites. Nous nous sommes engagés avec toutes nos forces aux côtés des forces armées pour défendre Goma. Nous avons mené des actions à Kibumba dès que les FRDC ont commencé à décrocher une première action. Nos hélicoptères sont entrés en action dès que les FRDC ont commencé à décrocher. Et nous avons mené des actions de combat avec nos chars aux côtés des FRDC entre Kibumba et Kibati toute la journée du 17. Nous avons tiré, nos hélicoptères ont tiré plus de 500 roquettes sur les colonnes du M23, extrêmement manœuvrières. Nos chars ont tiré plus de 2000 coups de mitrailleuse, plus de 1000 coups de canon. Alors ça, si c'est pas du chapitre 7, qu'est-ce que c'est ? Hein ? Donc nous nous sommes engagés de manière extrêmement offensive aux côtés des forces armées et seul le chapitre 7 pouvait nous permettre de le faire. Voilà ce que je voulais dire. Alors, vous avez posé des questions.
Il faut y répondre.
Voilà.
Concernant le bilan des morts, pour l'instant, comme vous l'imaginez, le bilan que nous pouvons donner, c'est du côté de la MONUSCO. Nous n'avons souffert aucune fatalité. Donc, on n'a pas eu de mort au niveau de la MONUSCO. Maintenant, au niveau des FRDC, au niveau du M23, nous ne disposons pas d'assez d'éléments pour répondre assez précisément à cette question.
L'embargo. Une précision concernant le chapitre 7. Beaucoup semblent croire que le chapitre 7, c'est uniquement l'utilisation des armes. Non. Le chapitre 7 comprend une série de mesures coercitives contre un État, une personne, etc. L'utilisation des armes, ce n'est que une des actions prévues par le chapitre 7. Il y a l'embargo sur le commerce, l'embargo sur le mouvement des personnes, etc., etc. Maintenant, même si sous chapitre 7, les forces sont autorisées à utiliser leurs armes, c'est dans des conditions bien déterminées. Ça ne veut pas dire que nous sommes sur chapitre 7, on tire sur tout ce qui bouge. Non. C'est ça qu'on appelle les règles d'engagement. Les règles d'engagement expliquent les conditions dans lesquelles les forces peuvent utiliser leurs armes. Donc, ne pensez pas que parce que nous sommes sur chapitre 7, nous tirons sur tout ce qui bouge. Parce que, comme l'a dit le commandant, nous restons toujours une force de paix, pas une force de guerre. Concernant maintenant l'embargo sur les armes à destination de la République démocratique du Congo. L'embargo avait été décidé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. L'embargo a été levé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. L'embargo a été décidé en 2003, l'embargo a été levé en 2008. Le document est là. Nous allons quand même vous le distribuer afin que vous le lisiez et que vous compreniez. Ce pays n'est pas sous embargo des Nations Unies. Maintenant, oui, il y a un embargo sur les armes à destination de la République démocratique du Congo. Cela ne concerne que les groupes armés. Pas le gouvernement de la République démocratique du Congo. Maintenant, il y a quand même des règles qui régissent la vente des armes. Je suis sûr que vous savez, au Congo par exemple, tout le monde peut avoir des armes. C'est autorisé. Mais vous devez faire votre demande. Vous voulez acheter une arme de chasse, vous n'entrez pas dans un magasin et vous l'achetez. Vous faites une demande. Je ne sais pas si au prix du ministère de l'Intérieur ou quoi, et vous êtes autorisé à acheter votre arme. Et vous avez cette arme légalement. Mais il y a seulement des types d'armes que vous pouvez avoir. Les armes de chasse ne sont pas interdites. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont poursuivis. Pourquoi ? Pour possession d'armes de guerre. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'il y a des armes que vous pouvez avoir, il y a des armes qui sont interdites. Cela s'applique aussi aux États. Nous avons vu des armes défiler ici, sur le boulevard, à l'occasion du cinquantenaire. Que je sache, on ne fabrique pas des armes en République démocratique du Congo. On ne fabrique pas des chars en République démocratique du Congo. Ces armes ont été achetées quelque part. Nous sommes d'accord. Donc, il n'y a pas d'embargo sur les armes à destination de la RDC. En ce qui concerne le gouvernement. Maintenant, il y a certainement des armes dont la vente est interdite. Je vous donne un exemple, je vais à l'absurde pour que vous compreniez. Si aujourd'hui, la République démocratique du Congo dit « j'en ai les moyens, je veux m'acheter une arme nucléaire », personne ne va le lui vendre. Nous sommes d'accord. Et ça, ou « je veux des armes chimiques », personne ne va le lui vendre. Nous sommes d'accord. Et ça, je parle de la République démocratique du Congo, mais ça s'applique à tous les États du monde. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Je le répète, en ce qui concerne les Nations Unies, il n'y a pas d'embargo sur la République démocratique du Congo en ce qui concerne son gouvernement. Et les restrictions qui peuvent exister concernent les États qui les vendent. Et comme tout État acheteur est concerné, vous êtes tenu de faire une déclaration sur les armes que vous achetez. Pourquoi ? Cela permet de savoir, de contrôler la circulation des armes à travers le monde. Le gouvernement de la République peut acheter des armes, mais le déclare. J'ai acheté ces armes. Et c'est tout. Mais je pense que quand vous aurez lu ce document, ce débat sera clos une bonne fois pour toutes. À droite, bon, attendez un peu sur la gauche, la droite s'impatiente. Oui.
C'est Didon Sapou du journal La Prospérité. Ma question s'adresse directement au commandant. Dans son compte rendu de tout à l'heure, il a dit que le 24 novembre dernier, le M23 a tiré des obus sur le lac pour dissuader en fait le navire qui naviguait. Je voudrais savoir, il y a quelques mois passés, la MONUSCO, la force onusienne, menait des patrouilles lacustres assez robustes à ce sujet-là. Maintenant, quel est l'état des lieux pour le moment, à ce qui vous concerne exactement?
Merci, M. Guy, du journal de la Prospérité. Actuellement, au moment où je vous parle, des patrouilles fluviales sont menées par URPAC. Et j'en ai parlé dans le libellé du résumé. Et même ces patrouilles ont essuyé des tirs à partir au large de l'île d'Idjoui. Il y a un îlot où ils ont essuyé des tirs. Donc, la sécurité fluviale est assurée par la marine congolaise en collaboration avec notre patrouille fluviale. Et il y a une délimitation des zones de responsabilité, un partage et un travail en bonne intelligence pour vous rassurer que la sécurité du lac, mais aussi parce qu'il y a des implications tactico-stratégiques au niveau de Bukavu, au niveau de toutes les villes où on peut passer par l'eau pour venir. C'est pour ça que aussi le M23 s'excite un peu en tirant sur beaucoup de bateaux parce qu'éventuellement, eux aussi, ils penseraient qu'ils pourraient être attaqués à partir des eaux.
Voilà. Deuxième question sur la droite. Une dame, juste devant vous.
Merci, c'est Marthe Bossoin-Dolé pour l'agence DIA. Je voudrais savoir, le colonel venait de dire tout à l'heure que des éléments de M23 se sont rendus. Alors, est-ce qu'ils ont expliqué pourquoi ils ont changé de camp et où est-ce qu'ils sont pour le moment? Est-ce que ces deux éléments seront remis au FRDC? Merci.
Madame Marthe Gossangele, ce n'est pas nouveau. Bien avant, ceux qui viennent régulièrement ici le savent, des éléments du M23 se rendent régulièrement au niveau de nos postes. Jusqu'à ce que même à Kiwanja, le M23 a tenté de mettre un poste pour prévenir que leurs éléments et leurs cadres ne se rendent à nos postes. Dans ces cas, la procédure, elle est la même. Ils sont reçus, protégés, transmis à la section D23R et bien entendu, ils seront écoutés parce que leur interview permet d'avoir des éléments d'appréciation qui sont utiles pour le travail que nous faisons. Je ne vais pas entrer dans les détails, vous tous vous comprenez ce que je veux dire. Mais ce n'est pas à nous de reprendre des gens du M23 et de les remettre au FRDC. Parce que, très rapidement, cela dissuaderait tous ceux qui voudraient se rendre de le faire. Voilà.
Merci. Prochaine question, oui.
Oui, merci pour la question, pour la parole. C'est Serge Mukendi. Pour le compte de Baraka Télévision et Congo et tout. Ma préoccupation consiste à savoir, parce que vous venez tantôt là de le dire, je reviens un peu en arrière, vous avez dit qu'il y avait une délégation conduite à Goma pour s'informer sur l'état des droits dans cette ville. Mais vous n'avez pas dit exactement, vous ne nous avez pas donné les rapports de cette commission, cette délégation qui est rentrée trop vite suite à la situation de sécurité. Voilà.
Oui, ben, je pense, je ne savais pas si ça vous intéressait. Je voulais annoncer. Maintenant que ça vous intéresse, je vous donnerai les détails. D'abord, cette mission est partie pour deux raisons. La première, c'est d'abord d'apporter un soutien à nos collègues qui sont sur le terrain, qui travaillent dans des situations très difficiles, qui ont quitté leur domicile, qui ont des nuits ou des journées très longues. Donc c'est d'abord un message de soutien et de solidarité, je dirais, de la famille. La deuxième raison, c'est de s'enquérir de la situation sur le terrain. D'abord, de la situation au niveau de la situation militaire, de la situation sécuritaire et aussi de la situation en ce qui concerne les droits de l'homme. Donc, ils étaient à Bukavu où ils ont rencontré nos collègues, ils ont rencontré le commandant de la brigade du Sud Kivu de la MONUSCO, ils ont rencontré les autorités provinciales, dont le gouverneur Chisamo, qui les a aussi briefés sur la situation. Ils sont ensuite allés à Goma pour voir quelle était la situation sur le terrain dans les trois domaines que j'ai énumérés. Et sur le chemin de retour, ils ont ramené avec eux les 22 magistrats qui étaient à Goma, mais qui étaient obligés de partir parce qu'ils se sentaient en insécurité. Comme vous le savez, je ne sais pas si vous les avez entendus, ils étaient dans plusieurs médias ici. Ce sont des magistrats, pour certains, qui ont participé au procès de certains leaders du M23 qui sont maintenant dans la ville. Il y en a qui ont été menacés parce que le M23 a dit « Bon, vous avez condamné nos éléments ou nos leaders pour 10 ans, pour 12 ans, nous sommes revenus maintenant à la ville, nous vous condamnons à mort. » Ils ont failli être exécutés, donc leur vie était vraiment en danger. On était obligé de les extraire et cette mission a profité donc de l'occasion pour les ramener ici à Kinshasa. Et dans la ville de Goma, ils se sont aussi intéressés à la situation sécuritaire parce que vous savez que à l'entrée du M23, une des choses qu'ils ont faites, c'était de casser la prison où ils ont fait sortir à peu près 1200 détenus qui étaient. Parmi les 1200, il y en avait 500 qui étaient justiciables devant la justice militaire. Ça veut dire que ce sont des anciens militaires ou des anciens des groupes armés qui ont commis des faits, certainement, avec leurs armes. Donc, qui constituent un danger sérieux, maintenant, pour la ville de Goma, maintenant qu'ils sont à l'extérieur. Donc, voilà, j'espère que j'ai satisfait votre curiosité. Nous prenons une question à côté. Le micro, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a le micro? Oui, allez-y. Celui qui a le micro. Oui, posez votre question.
Merci pour la parole. Je m'appelle Honoré Mbenga. Je suis de l'agence presse associée APA. Ma question a deux volets. Le premier volet s'adresse à monsieur le porte-parole militaire. J'aimerais savoir exactement où se trouve basée la direction du M23. Deuxième volet, à monsieur le porte-parole, la semaine dernière, mercredi, j'ai assisté à une conférence de presse tenue par les forces vives de la nation. Ils ont affirmé que le M23 était l'armée régulière rwandaise sous prétexte quelconque. Qu'en pensez-vous, monsieur le porte-parole? Merci.
Mon commandant.
Monsieur Honoré Benga, merci pour votre question. Vous voulez savoir la localisation exacte de la direction du M23? Je ne saurais vous la dire avec précision, même si hier, si vous parlez de la direction politique, ils ont tenu une conférence de presse dans un hôtel de Goma. Le chef militaire se déplace, il a même été à Kampala. Donc voilà pour l'instant les éléments que j'ai à ma disposition qui ne me permettent pas assez de vous dire exactement la localisation de la direction du M23.
Vous me demandez est-ce que le M23 est un groupe rwandais? Ça, je ne le sais pas. Ce que moi je sais, c'est que le M23 se présente comme un groupe politico-militaire congolais et que c'est à ce titre qu'il négocie avec le gouvernement congolais. Nous allons prendre une dernière question. Avancez le micro, monsieur Omba.
Oui, merci Albert Omba, Numérica TV. Je voudrais juste demander au commandant, le M23 a posé une certaine conditionnalité, une série de conditions pour quitter Goma. Et comment réagit la MONUSCO à ces conditions? Et on a eu certains bruits que le M23 commençait déjà à quitter Goma. Est-ce que vous avez des précisions là-dessus? Quelles sont les modalités prises pour ces retraits par la MONUSCO?
Concernant la deuxième question, c'est-à-dire que si nous avons mis en place un dispositif pour observer les mouvements du M23. Effectivement, un dispositif est mis en place par la force pour observer les mouvements du M23. Mais à l'heure où je vous parle, nous n'avons aucune indication précise qui nous permette de dire clairement que le M23 se retire. On a exactement le nombre de camions qui vont et viennent, les hommes, le nombre d'hommes, mais pour l'instant, des camions remplis ont quitté Goma vers Kibumba, sont revenus vides. Un certain nombre d'hommes, par exemple hier, on a parlé de 129 hommes qui sont sortis, 124 qui sont revenus. Donc nous n'avons aucune indication à même de vous dire clairement que le retrait du M23 a commencé.
Voilà, merci beaucoup. Nous espérons que nous avons répondu à vos préoccupations. En ce qui concerne l'embargo sur les armes, le document est en train d'être distribué et j'espère que vous serez édifiés après l'avoir lu. Merci. Merci à nos auditeurs qui nous ont suivis en direct. Merci à vous qui avez fait les déplacements. Rendez-vous la semaine prochaine.
Dire une bêtise, j'ai vu qu'on était encore en direct.
On a survécu.
Oui, ça va, ça va, ça va, c'est bon là.